tout pour investir, le coach.
L'argent n'a pas d'odeur. Comment dit-on ça en latin, Jean-Marc ?
Pecunia non olet. Alors, pecunia, ça veut dire l'argent. Je rappelle, j'avais déjà eu l'occasion d'en dire un mot. Pecunia, ça vient de pecus, le vulgum pecus. C'est le troupeau vulgaire. Le pecus, c'est le troupeau. Et donc, la richesse pour les Romains, l'argent, c'est l'activité agricole et essentiellement l'élevage de bovins.
La propriété bovine.
Alors, pecunia non olet, c'est associé à un empereur qui est Vespasien. Vespasien, il règne sur Rome entre 69 et 79. Quelques éléments de contexte que je rappelle à nos auditeurs téléspectateurs, pour ceux qui auraient oublié leur cours de latin et leur cours d'histoire romaine.
Contexte très contemporain
d'ailleurs.
Un prédécesseur qui aurait vidé les caisses.
Voilà, exactement. En fait, en 64, donc...
64 d'avant notre ère.
Non, après notre ère, en 64, nous sommes en 64.
Ah oui, après, oui, pardon. Et en 0064.
Voilà, 0064. Et donc en 64, Rome est incendiée. L'empereur de l'époque, c'est Néron. On ne sait pas très bien si c'est lui qui est à l'origine de cet incendie. Il va accuser les chrétiens. C'est la manifestation pour la première fois de l'existence de cette religion. Et il engage donc des travaux de reconstruction qui ne débouchent pas avant sa mort, puisqu'il est assassiné en 68. 69, c'est une année qui est une année où Rome connaît plusieurs empereurs, des guerres civiles, des affrontements, et Vespasien triomphe. Et il arrive avec un programme de reconstruction qui est énorme.
Les infrastructures.
Suétone, qui est l'historien romain qui a écrit cette période, qui a décrit cette période de l'histoire de Rome, parle de 4 milliards de sesterces. Et les historiens, depuis, ont évalué à 10 milliards de sesterces le PIB de l'Empire romain. Donc le coût de la reconstruction de Rome représentait 40% du PIB. Il fallait donc trouver énormément de recettes. On fait des propositions à Vespasien, on lui propose d'abandonner la construction d'un bâtiment qui existe encore, qui est le Colisée. Et Vespasien dit non, non, je garde le Colisée, mais je vais trouver de nouvelles recettes pour financer sa construction. Et donc Vespasien réfléchit au fait que, dans l'occasion de la réorganisation de Rome, que l'on reconstruit, on va installer un peu partout des amphores dans lesquels les gens vont pouvoir se soulager, c'est-à-dire vont pouvoir uriner. Et l'idée vient à Vespasien de récupérer cette urine et de la revendre à un certain nombre de gens qui utilisent à l'époque l'urine comme un détergent.
Notamment les teinturiers. Il y a toute une industrie de la teinturerie qui est basée sur l'urine à l'époque.
Sur l'urine. Ça fonctionne sur l'urine et des esclaves, parce que pour manier l'urine, à la différence de l'argent, a une odeur. Et alors justement, cette idée heurte un certain nombre de sénateur. Il faut dire que Vespasien est d'origine plébéienne. Il appartient à une très vieille famille de plébéiens qui ont été tribuns de la plèbe. Et au Sénat, c'est encore les patriciens qui dominent. Donc, il a un problème de légitimité vis-à-vis de l'élite romaine. Donc, on lui fait son procès de façon assez régulière. Et en particulier, on lui fait le procès d'utiliser l'urine pour gagner de l'argent. Et son fils qui le défend... rapporte à Vespasien l'attaque dont il a été l'objet à cause de l'utilisation de l'urine pour récupérer des recettes fiscales. Et Suétone raconte qu'à ce moment-là, Vespasien prend un sesterce et puis il le montre à Titus, son fils, et lui dit « Ça sent là, qu'est-ce que tu sens ?» Et Titus dit « Mais rien. » Et bien oui, parce que pecunia non olet, l'argent n'a pas d'odeur. L'important, c'est d'avoir de l'argent, et cet argent n'a pas d'odeur. Ceux qui subissent les conséquences de ma décision, c'est les esclaves qui sont obligés de traiter l'urine, c'est les gens qui paient l'urine, mais l'argent, à la fin des fins, n'a pas d'odeur. Et donc, c'est vécu dans la saga fiscale mondiale historique comme étant une sorte d'appel à la diversification, à la capacité à utiliser tout ce qui peut rapporter de l'argent pour essayer d'équilibrer les comptes publics.
Cette chronique appelle beaucoup de réactions en direct de nos auditeurs. Jean-Marc, pardon, je vous coupe, mais parce que, par exemple, on a Jean-Jacques qui nous répond « Oui, l'argent a une odeur, il suffit de sentir une liasse de 20 billets ».
Oui, alors on peut effectivement se poser la question des techniques d'imprimerie, puisque...
Certainement là... pour être détecté par les chiens renifleurs.
Oui, absolument. Les billets ont effectivement une odeur. L'argent électronique a de moins en moins d'odeur. Et l'argent d'autrefois, qui était du métal, avait des odeurs. Le cuivre a une certaine odeur. Et ce qui est important dans le discours de Vespasien, c'est le symbole. C'est le symbole. C'est l'association à quelque chose qui est assez vil et qui est quelque chose qui exprime... une sorte de bassesse humaine, même si c'est indispensable d'aller se soulager, et de l'associer à l'action de l'État. Ce qui est intéressant dans la démarche d'ailleurs de Vespasien, c'est que Vespasien associe cette action non seulement à la recette fiscale, mais aussi à des problèmes d'hygiène. C'est-à-dire, en mettant en place des amphores dans les rues de Rome, dans le Rome qu'on est en train de reconstruire, il s'agit effectivement de faire en sorte que les rues de Rome, elles, cessent d'avoir une odeur. Et ensuite...
Oui, on parle d'infrastructures urbaines.
Absolument. Mmh. Ensuite, Suétone cite aussi un autre empereur qui est Tibère. Et Tibère, donc, c'est le successeur de, d'Auguste. C'est le prédécesseur de Caligula. Et Tibère a été un des premiers personnages de l'histoire à être confronté à une crise financière. Et donc, le système embryonnaire de la finance fait faillite. L'État renfloue.
On est en quelle année, Jean-Marc ?
On est au tout début de l'ère chrétienne. On est vers au tout début de l'ère chrétienne. Et Tibère va avoir comme réflexion pour remonter les caisses publiques qui ont été associées et qui ont été mobilisées pour compenser le krach des banques de romaines. Il dit la bonne politique fiscale, ce n'est pas d'écorcher le mouton, mais c'est de le tondre. Le mouton est tendre. Et c'est un principe qui est un principe, là aussi, qui est assez général. C'est-à-dire, il faut jamais aller trop loin, il faut être capable de récupérer de l'argent sur le contribuable, mais pas de tuer le contribuable. Trop d'impôts tue l'impôt.
Tondre le mouton, ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Il y a plein d'expressions autour de l'argent. Tous les mardis, on les décrypte avec vous, Jean-Marc. Bon, l'argent n'a pas d'odeur. Vous nous avez expliqué les origines. On comprend évidemment le symbole. Maintenant, cette expression a un petit peu évolué. Aujourd'hui, on s'en sert un petit peu pour dire que peu importe d'où provient l'argent, même s'il est mal acquis, le principe, c'est d'en avoir.
Absolument, oui. L'argent n'a pas d'odeur à dépasser le simple cadre fiscal. D'abord, sur le plan fiscal, ça a servi à justifier tout un tas d'impôts. Donc, l'histoire de la fiscalité mondiale nourrirait de nombreuses chroniques du mardi, de l'impôt sur la barbe, l'impôt sur le savon, l'impôt sur la nouvelle lune, tout un tas d'impôts ont pu être conçus à un moment donné. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée s'est étendue à l'argent privé. C'est-à-dire que, à la fin des fins, effectivement, ce qui est important, c'est de réussir, tout en restant malgré tout dans le cadre légal. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de justifier systématiquement le recours au crime pour gagner de l'argent. Mmh. Mais une fois qu'on reste dans le cadre légal, le fait de faire de la morale aux gens qui gagnent de l'argent est vécu comme étant totalement déplacé. L'argent n'a pas d'odeur. Vous avez gagné de l'argent, vous avez acquis cet argent de façon efficace, puisque vous avez gagné de l'argent, et vous êtes resté dans le cadre légal, on n'a aucun reproche à vous faire.
L'argent, le salaire a-t-il une odeur ? Non, ce serait un autre débat d'abord, c'est ça.
Alors, on reviendra sur le mot salaire. J'expliquerai d'où vient le mot salaire dans une autre chronique. Il ne faut pas gâcher l'avenir.
Maëlle, qui nous cite quotidiennement, nous dit l'argent a tellement d'odeurs différentes. Bon, reste qu'on utilise beaucoup d'expressions. Il y a l'argent sale et puis il y a blanchir l'argent. Est-ce que ce sont les mêmes origines que l'argent n'a pas d'odeur ?
Non, ce n'est pas la même origine. L'argent sale, effectivement, c'est l'argent du crime, c'est l'argent qui est mal gagné. Et donc, l'argent sale, l'expression apparaît au XVIIIe siècle où on considère que certaines formes de certaines façon de gagner de l'argent et de l'argent malhonnête, de l'argent qui certes n'a pas d'odeur mais qui salit d'une certaine façon celui qui l'a gagné. En particulier, c'est ce qui va faire la différence entre le noble et l'aristocrate d'un côté et le bourgeois de l'autre. C'est-à-dire, le bourgeois, il peut gagner de l'argent en faisant certaines choses. L'aristocrate, il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre. Notamment au moment de la spéculation autour de John Law, la question qui s'est posée, c'est à l'époque, c'est est-ce que les aristocrates peuvent s'associer à cette opération qui est une opération dans laquelle il y a des banques, il y a des gens qui sont assez peu recommandables. Et l'argent sale, c'est aussi l'argent qui va être gagné au travers du prêt, de l'usure, de tout un tas d'opérations qui sont des opérations financières où il n'y a pas derrière du travail, puisque normalement l'argent noble, c'est l'argent qui est issu soit du travail pour le bourgeois, soit de la gestion de son domaine patrimonial pour le noble. Et donc blanchir l'argent, c'est faire en sorte qu'il cesse d'être sale, et l'argent sale, c'est celui qui est gagné de façon indigne. On déroge quand on gagne de l'argent sale, et maintenant l'argent sale, c'est celui qui est gagné de façon carrément criminel.
Bon, et blanchir l'argent, on revient à cette histoire de teinturerie ?
Non, on revient simplement qu'en face de l'argent, il y a de l'argent sale, et donc la façon de faire en sorte que quelque chose cesse d'être sale, c'est le blanchir, c'est lui donner une nouvelle couleur, effacer la couleur de la saleté qu'il portait. Alors, blanchir de l'argent, au début, c'est plutôt assez positif, et puis ça devient assez vite un mensonge. C'est-à-dire, celui qui blanchit l'argent, c'est celui qui cache la réalité d'où vient cet argent.
C'est celui qui enlève toute trace des origines
taches,
de l'argent.
Les taches sur l'argent.
C'est l'anti-blockchain et l'anti-bitcoin.
Oui, je ne sais pas si l'argent sale, l'argent blanchi s'applique aux nouvelles technologies.
Nous en reparlerons. Jean-Marc, vous nous avez emmené environ 70 ans après le début de notre ère, quand le nouveau souverain Vespasien doit trouver un moyen rapide de renflouer les caisses de l'Empire.
Juste un dernier mot, la trace qu'il a laissée, c'est pas uniquement cette expression, c'est aussi le lieu qui est
les Vespasiennes.
De cette expression, les Vespasiennes en français, comme dans beaucoup de langues, c'est un lieu où on se soulage.
Les Vespasiennes, car oui, c'est un synonyme de toilette pour ceux qui découvraient ce mot avec nous, et tant mieux si on participe à votre vocabulaire. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel. Si vous aussi vous avez une idée d'expression ou de mots sur lesquels vous voulez que Jean-Marc travaille, planche et avec sur lesquels il peut partager sa culture, vous l'avez vu, sans limite sa culture financière et économique, et bien vous nous écrivez, l'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn, vous m'écrivez en direct comme Maëlle et comme Jean-Jacques, et vous venez participer à la fabrication de cette émission.